On est maintenant avec Mme Julie Montreuil, directrice clinique du Carrefour familial des personnes handicapées. Bonjour, Mme Montreuil.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien vous-même?
Oui, vraiment.
Vous êtes avec nous pour parler de la première maison d'hébergement d'urgence pour personnes en situation de handicap qui est ouverte à Québec en juillet. Mais d'abord, parlez-nous de votre organisme.
Alors, le Carrefour familial des personnes handicapées est un organisme d'aide-entraide et on fait de la défense de droits aussi, de l'éducation populaire, puis on vise l'autodétermination des personnes. Mais c'est un organisme qui a quand même 75 ans et on est dans la capitale nationale.
Et quelles sont vos actions concrètement? Quels sont vos services pour aider les personnes victimes de violences conjugales? Au-delà, évidemment, la maison d'hébergement dont on va parler dans les prochaines minutes.
Parce que je vais faire une distinction. Nous, la maison, c'est pas une maison d'hébergement, c'est un logement d'urgence.
Ah, oh, pardon.
Et c'est pour les personnes, les femmes en situation de violence conjugale, mais c'est aussi pour toute situation qui demande d'avoir un hébergement d'urgence ou transitoire pour 6 mois. C'est que ça peut être autant que il y a une inondation dans votre logement puis que vous devez vous relocaliser ailleurs, mais dans un appartement accessible et adapté. Alors, vous pouvez avoir cet appartement-là pour une durée de 6 mois. C'est que pour des personnes donc qui sortent de l'hôpital, qui ont des situations, en fin de compte, où la stabilité résidentielle devient critique, c'est vraiment pour contrer l'itinérance ou encore l'instabilité résidentielle. Alors, c'est vraiment le but là, de ce logement-là.
Et c'était un besoin parce que, justement, vous êtes le premier. Il n'y en avait pas là, des logements comme ça qui étaient adaptés aux personnes en situation de handicap.
Non, effectivement, nous, c'était un gros besoin à Québec. Ça a commencé, en fait, parce que notre ancien président avait eu, justement, une inondation dans son logement puis de faire des réparations. Puis il devait aller ailleurs, dans un autre endroit. Et puis, on n'a rien trouvé, autant au niveau des hôtels, au niveau des... C'est que c'est ramassé en RPA, mais là, la RPA n'était pas accessible. C'est qu'il devait aller prendre ses soins dans sa chambre de bain, dans son logement, pour pouvoir prendre... C'est que ça n'avait pas de sens comme situation, puis ça a duré quand même un bon 4-5 mois.
C'est quand même effectivement ridicule, mais ça montre...
C'est ridicule. Ça montre le besoin.
Oui, voilà, ça montre qu'il y a vraiment besoin, parce que si c'était le cas de votre ancien président, ben c'est le cas de toutes sortes de personnes qui se retrouvent dans des situations précaires du jour au lendemain, puis que, justement, ont pas de plan B ou ont pas d'option là pour les aider à ce moment-là.
Puis on a vu qu'on était quand même sensibilisé à la violence conjugale, parce qu'on a comme on travaille aussi en violence conjugale. On savait très bien aussi qu'il y avait un besoin pour certaines femmes de pouvoir partir de chez elles et que les maisons d'hébergement n'étaient pas accessibles et adaptées. Cela étant dit, il n'y a pas un niveau de sécurité comme on retrouve dans les maisons d'hébergement. On s'entend, c'est un logement.
Oui.
C'est un logement situé en périphérie là, de Québec. C'est que c'est pas nécessairement... Il n'y a pas personne là 27 sur 27, 7 jours sur 7. Là. C'est que il faut que la personne ait quand même un degré d'autonomie. Mais on met aussi les services en place. Là. Je veux dire, si la personne a besoin de soins à domicile puis qu'elle n'a pas, elle va les recevoir. Ça, c'est certain. Là. C'est qu'on essaye aussi, de, pendant ce temps-là, de régler toutes les questions. Souvent, ça va être des questions médicales pour quelqu'un qui est nouvellement en situation de handicap. Là. Il va y avoir toute la question des aides techniques, toute la question de faire les rapports d'impôts. Souvent, on n'a pas de crédit, c'est qu'il faut refaire son crédit. C'est que c'est beaucoup de démarches administratives qui, lorsqu'on est toute seule, surtout en sortant d'un événement traumatique, que tu ne sais pas trop quoi faire, puis comment le faire, puis tu n'as pas nécessairement l'énergie aussi pour le faire. C'est que là, ça permet ce temps-là que les personnes puissent se déposer, qu'il y ait une intervenante qui soit avec eux pour faire toutes les démarches. Pour reprendre le goût à la vie aussi, parce que des fois, ça peut être difficile. C'est de reprendre le goût à la vie, puis nous, on relocalise la personne, mais avec un suivi à l'externe. C'est qu'on continue à donner un suivi, même si elle est dans un logement permanent par la suite. C'est que c'est vraiment, nous, on vise que la personne vraiment soit stable au niveau du logement, qu'elle puisse avoir un endroit sécuritaire qui correspond à ses besoins. C'est vraiment qu'est-ce qu'on vise.
C'est clairement, c'est clairement un suivi donc qui est fait de long à large de la personne. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, en fait, ou qui est très peu mis d'avant par les organismes gouvernementaux ou communautaires. Là.
Effectivement, c'est vraiment, nous, on travaille sur tout l'axe de la stabilité résidentielle, de l'itinérance à la stabilité résidentielle. C'est que pour nous, c'est vraiment important de continuer à donner ce suivi-là, puis de s'assurer que la personne est vraiment bien là. Puis tu sais, à un moment donné, on espace nos visites, on espace nos suivis, puis la personne, elle devient complètement autonome, mais elle peut venir au carrefour quand même, c'est-à-dire qu'elle va avoir quand même un lieu d'appartenance, des activités, elle peut venir nous voir, elle peut venir prendre un café le vendredi. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'activités à lesquelles elle peut prendre part. Ça fait que ça l'aide aussi à ce niveau-là, au niveau social, par la suite, une fois que tout le volet de la vie privée et quotidienne là est bien placé.
Ça aide à réduire l'isolement, puis comme on en parlait un peu plus tôt là, dans l'émission, à réduire aussi tous les problèmes qui viennent avec l'isolement, donc les problèmes de santé physique, mm-hmm. les problèmes de santé mentale et tout ce qui s'ensuit.
Tout à fait. Puis nous aussi, on travaille beaucoup avec les autres organismes communautaires. On n'est pas tout seul là-dedans. Nous, on travaille beaucoup en collaboration. Mais qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on travaille aussi l'accessibilité des organismes communautaires. C'est que, tu sais, pour que justement que les organismes prennent conscience que souvent ils sont pas accessibles. C'est bien beau avoir, tu sais, faire qu'est-ce qui est sécurité alimentaire, les comptoirs d'alimentation, tout ça. Si les personnes peuvent pas y aller, c'est un problème. Ils n'auront pas le droit. C'est que, tu sais, on sensibilise beaucoup, beaucoup les organismes, justement, à donner des, au moins accommoder puis donner des, rendre leur locaux accessibles. Ce qui fait que, on tisse aussi quand même un milieu, social autour de la personne, là, dans la ville.
Vous faites bien de soulever cet enjeu-là parce que c'est pas un enjeu auquel on pense beaucoup. Il y a énormément d'organismes communautaires, mais la plupart ou du moins une partie d'entre eux ne sont pas accessibles là, à des personnes qui sont en situation d'handicap physique. Donc, on restreint les services auxquels on droit ces personnes-là ou on accès à ces personnes-là, alors que c'est des personnes qui, malheureusement, sont en marge de la société, donc qui pourraient avoir besoin de services communautaires plus que les gens qui ne sont pas en situation de handicap.
Ben oui, tout à fait. Je veux dire, en fin de compte, c'est les principales personnes qui en auraient le plus besoin. Oui. Je veux dire, souvent, c'est les personnes qui sont dans un état de richesse incroyable. C'est que nécessairement, tu sais, les friperies, c'est bête, là, les friperies. Je veux dire, moi, je peux aller dans les friperies dans un sol d'église, mais personne en fauteuil, non. C'est que, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites choses. Puis le milieu communautaire, on l'a jamais trop, tu sais, on a parlé beaucoup des commerces accessibles, tout ça, mais le milieu communautaire, on dirait les organismes communautaires, on n'a jamais trop, tu sais, ils n'ont pas d'argent, tu sais, on n'a pas trop incité.
Non, effectivement.
Oui, mais on s'aperçoit que premièrement, quand on commence à en parler, ils deviennent vraiment beaucoup plus ouverts. Puis vraiment, il y a une volonté, on voit, il y a vraiment une volonté de changement là. C'est que ça, c'est vraiment le fun. C'est qu'on travaille avec les organismes, on fait des partenariats avec eux. Nous, on a tout ce qui fait maintenant une cuisine collective. Puis c'est à cause que c'est nous qui avait dit, ah ben oui, les cuisines collectives, c'est le fun, mais nos membres ne peuvent pas participer.
Oui, un autre service qui est très intéressant, mais qui oublie l'accessibilité. Hein. Oui.
Tout à fait. Ça fait que cet organisme-là fait comme, OK, nous, on va aller chercher les fonds, on va vous la monter, la cuisine collective.
Donc, on voit quand même une belle participation de la part de la communauté, des centres communautaires qui répondent, en fait, à l'appel et qui font preuve de bonne foi et d'ouverture. Là.
Tout à fait. Tout à fait. C'est que le projet de logement d'urgence s'inscrit là-dedans. S'inscrit aussi qu'on est en plein milieu de Saint-Roch. C'est que c'est vraiment la place à Québec où il y a plus de personnes en situation d'itinérance. Nos bureaux sont là. C'est qu'on est très, très sensibilisés parce que c'est notre réalité à tous les jours. Puis on s'est aperçu que le nombre de personnes en situation d'handicap, en situation d'itinérance, était incroyable. C'est que le logement d'urgence nous permet aussi de documenter tout ça. Parce qu'il faut quand même, parce qu'il n'y en a pas de recherche faite sur le handicap et l'itinérance.
Non, il y en a très peu. Il y en a très peu, en fait. Et puis, effectivement, bon, il y a le fait que les personnes qui se sentent handicapées aient plus de difficultés à accéder à l'emploi, soit, en général, malheureusement, là, plus inquiets à être en situation de pauvreté, mais ça les mène directement à la rue.
Oui, c'est ça. Puis souvent, ça prend pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai des drames humains derrière. Là, je veux dire, c'est le monsieur qui fait un AVC, mais que pendant ce temps-là, sa conjointe a un cancer généralisé, ouais. Est en train de mourir. Ouais. Lui, il avait plus de place. Là. Il n'avait plus de place où aller.
Non, c'est sûr que ça prend.
C'est des situations comme ça où que tu fais comme, mais tu sais, ça peut être n'importe quoi, une amputation. Puis là, ça te mène directement à la rue. C'est que c'est vraiment le plus qu'on voit, c'est les hommes aussi, que c'est de façon prédominante. C'est vraiment beaucoup les hommes, puis les hommes de 51 à 54 ans.
Et vous l'avez nommé tout à l'heure quelque chose d'aussi banal, entre guillemets, qu'un dégât d'eau. Hein, si on a nulle part où aller, ben on va se retrouver à la rue.
C'est ce qui tu sais. Moi, si j'ai un dégât d'eau chez moi, je suis mobile, je suis pas en fauteuil, là. Mais si j'ai un dégât d'eau chez moi, je peux aller chez ma fille qui a un appartement sur 2 étages. Tu comprends?
Oui, oui.
Il n'y a pas de problème. Sauf que si j'étais en fauteuil, je pourrais pas faire ça. C'est que, tu sais, le milieu, tout le réseau alentour de la personne n'est pas nécessairement non plus accessible. Ça fait que on se ramasse que, tu sais, puis il n'y a pas tant d'hôtels accessibles aussi abordables.
Non, c'est ça.
Il n'y a pas beaucoup de solutions. Vraiment, là, pour avoir cherché et cherché. Puis je vous dirais qu'on a ouvert le logement d'urgence le 4 août. Puis il y avait déjà 2 personnes.
Ben, ça montre, encore une fois, vous l'avez dit, malheureusement, ça montre le besoin, mais ça veut dire que vous êtes au bon endroit, en fait, puis on espère que, à force d'en parler, à force de faire des démarches, il y aura d'autres opportunités pour avoir plus de logements.
Oui, puis nous, on commence à penser à vraiment à travailler sur l'itinérance. Là, on parle beaucoup de l'incapacité résidentielle, mais vraiment les personnes qui sont à la rue avec un handicap, puis qui ont un vieillissement précoce à cause de la rue. Puis là, on a vraiment des projets là pour au moins accompagner ces personnes-là aussi, là, parce que ça aussi, c'est du long terme. Ça aussi, il faut voir que c'est pas de, on met quelqu'un dans un logement puis c'est beau. C'est qu'il faut y régler les problèmes de santé mentale, de toxico. Il y a quand même, c'est quand même complexe. Mais justement, ça se travaille vraiment là avec d'autres organismes qui ont d'autres compétences. C'est que je pense que dans tout ça, qu'est-ce qu'on a appris, c'est vraiment à travailler avec les autres.
Oui, puis c'est quelque chose qu'on oublie, hein. Malheureusement, c'est souvent du court terme qu'on offre, et c'est mieux que rien. Mais souvent, ben, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que ces gens-là, on les sort pas de la rue de façon définitive parce qu'on n'a pas de service à long terme pour les aider à se réorganiser, à leur réinsertion dans la société, ce qui est quand même ce qui peut être difficile là, pour des personnes qui sont à la rue depuis un moment ou qui sont en difficulté depuis un moment.
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Puis, je dirais aussi que la difficulté qu'on avait, parce qu'on a vu, c'est de travailler quelquefois avec le réseau, que là, ils placent les gens dans des logements. Tu sais, ils trouvent un logement, c'est pas parfait, mais ça va aller. Tu sais, c'est comme, mais en fait, non, c'est pas parfait, c'est pas accessible.
Oui, ben voilà, oui.
Là, tu dis, mais là, tu es content parce que tu viens de trouver un toit, ça, je comprends. Mais il va revenir, c'est moi qui vais l'avoir dans un mois, dans 2 mois, c'est moi qui vais le revoir, là. Puis je vais être obligée de trouver quelque chose de plus permanent. Mais c'est ça, c'est de prendre son temps puis de bien faire les choses. Puis c'est sûr que des logements, il n'y en a pas des tonnes de logements accessibles, mais jusqu'à présent, nous, on travaille autant à l'externe qu'avec le logement d'urgence, puis on a toujours trouvé un logement pour quelqu'un.
Oui, mais vous me semblez être des gens quand même très débrouillards qui lâchent pas l'affaire facilement non plus.
Non, effectivement. Effectivement, vous avez raison. Mais reste que, tu sais, c'est vraiment... mais ça peut prendre 3 mois. Mais moi, j'aime autant prendre 3 mois pour la mesure qu'il me reste dans mon logement d'urgence que le mettre dans une place qui ne convient pas, en fait.
Oui, bien, c'est une autre mentalité, en fait. Là. C'est ça, c'est une autre façon de voir les choses.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça fait des petits. Puis on voit que aussi le CIUS commence à travailler un petit peu plus dans cette ordre d'idée-là. Ça fait que je pense qu'on est en train d'initier un mouvement quand même solidaire, collectif. Ça fait que c'est bien agréable de voir tout ça.
En souhaitant que ça continue, Mme Montreuil, vous êtes directrice clinique du Carrefour familial des personnes handicapées. Et si on veut en savoir plus sur vos services et sur le logement d'urgence, j'imagine que vous avez un site Internet et des réseaux sociaux.
Oui, sur le site Internet. Il n'y a peut-être pas les indications pour le logement d'urgence, ça va aller en janvier, mais de toute façon, vous pouvez téléphoner au numéro que vous allez retrouver là sur le site Internet si vous voulez avoir de l'information. Si vous voulez savoir comment procéder, si vous avez quelqu'un, vous êtes inquiet pour quelqu'un, pour toutes sortes de demandes, finalement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous et encore une fois, merci de votre initiative pour changer les choses et on espère que ça continuera en 2026.
Bien, merci beaucoup à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.